Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse.
Homer, entre guillemets.
La question homérique concerne précisément le rapport entre l'homme appelé Homer, mot qui signifie otage et n'est sans doute qu'un surnom, et les deux poèmes conservés qui lui sont attribués par la tradition. Les a-t-il écrits tous les deux de bout en bout, comme Virgile écrira l'Énéide ou Voltaire la Henriade? Ou bien a-t-il écrit que l'Iliade, l'Odyssée étant l'œuvre de l'un de ses continuateurs? Autant d'énigmes qui ont donné lieu à d'innombrables études, surtout depuis le XVIIIe siècle.
Et en voici d'autres qu'on peut ajouter aux propos du professeur Chantraine. Au-delà de l'Iliade et de l'Odyssée, Homère n'a-t-il pas produit bien d'autres poèmes? À un moment, les Grecs lui en attribuaient beaucoup, puis ils ont eu tendance à élaguer, ne lui gardant que le meilleur. Et puis encore une question, comment a-t-il pu produire et l'Iliade et l'Odyssée? Ce n'est pas tant la narration qui les distingue que les questions fondamentalement différentes que les deux cycles tentent chacun de résoudre. Un même homme peut-il faire sien deux modèles aussi différents? D'ailleurs, cet homme n'est-il pas seulement un nom? Les modernes, depuis la Renaissance, ont installé le doute, fait d'Homère un problème qui est devenu un programme scientifique. Et au bout du compte, la majorité des spécialistes pensent maintenant qu'Homère n'a pas existé et qu'il faut le mettre entre guillemets. Sans doute, les anciens n'avaient-ils pas la même conception que nous de la réalité. Pour eux, c'était d'abord le nom qui comptait. Et pour eux, toutes les variantes et les contradictions qui nous paraissent brouiller la vie d'Homère telle qu'elle a été rapportée étaient autant de signes de la puissance de son mythe. Elle faisait grappe et signifiait sa fécondité. On peut certes continuer à observer ce qui fait de l'ombre au mythe et collectionner les feuilles qui tombent de l'arbre, mais qu'en est-il de l'arbre? Il doit bien être quelque chose derrière son ombre.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Question que pose Pierre Judet de Lacombe, bonjour.
Bonjour.
Dans une petite conférence aux enfants, c'est chez Bayard. Vous parliez aux enfants de 8 à 13 ans.
Oui, c'est ça, dans un théâtre.
Et puis, dans un livre pour les adultes, Folio, une biographie inédite et assez singulière de Molière. Alors, quand vous vous présentez aux enfants, vous dites « Moi, je suis un métier formidable, je suis traducteur, entre autres, je suis antre. »
Ah oui, c'est ça, je suis, notre nom c'est philologue, j'étudie les textes, donc je m'y intéresse parce que je pense que c'est des textes, ce sont des textes magnifiques. Et donc entre, on est entre sa propre langue, entre la littérature et la littérature française où il n'y a pas vraiment d'épopée et ces grands textes épiques de l'Antiquité. Il faut essayer de trouver un moyen d'aller de l'un à l'autre, tout en essayant d'être actuel sans trahir. Et c'est passionnant, c'est une aventure. Donc.
Transmettre la nouveauté propre aux textes anciens. C'est pas du tout le genre cours de version grecque, ce que vous allez nous donner aujourd'hui. On va même parler de Woodstock.
Oui, parce qu'en version grecque, dans les écoles, moi, ce que j'ai fait et subi, si j'ose dire, on se disait qu'il y avait une seule manière de traduire dans un bon français. Et on n'était pas tellement attentif à ce que Homère, même s'il est l'auteur le plus ancien, enfin, s'il a existé, sans doute pas, ce qu'il faisait de nouveau dans sa langue, dans sa forme, dans le genre qu'il employait. Donc, c'est pareil pour Platon, pour Eschyle ou Pindare. Ce sont des révolutionnaires à chaque fois. Et donc, il s'agit de montrer en quoi c'est nouveau, pas en l'actualisant, en faisant dire des banalités contemporaines, non, mais en montrant en quoi il y a une provocation dans ces textes.
Homère, s'il a existé, sans doute pas, et après vous faites un... Et le corpus des textes, vous dites qu'il y avait à Alexandrie, au IIIe siècle avant notre ère, une sorte de CNRS qui essayait d'établir le corpus des œuvres d'Homère.
Donc c'était l'idée de faire de la Grèce, donc qui était dominée par Alexandre de Macédoine, et puis ses successeurs, d'en faire un empire, aussi un empire culturel. C'est-à-dire qu'il fallait tout rassembler dans un seul lieu. Et là, donc les érudits, les philologues, comme on disait, ont rassemblé des textes d'Homère, ils les ont recopiés, pris les meilleurs, ils en ont volé aussi, de manière à établir le texte. Et nous, ce que nous avons dans nos manuscrits, ça vient de là. Mais c'était cette idée d'avoir un auteur qui représente la langue grecque dans ce cas-là de plus fort, et d'où ces études de grammaire. La grammaire, d'ailleurs, l'étude des formes verbales, de la syntaxe, vient de la lecture d'Homère. Il s'agissait de rendre compte de ça.
Une des singularités de votre livre chez Folio consiste à explorer d'autres manuscrits de l'époque romaine ou de l'époque byzantine qui reprennent des textes plus anciens, qui sont autant de vies d'Homère.
Alors, pour les Tous les anciens Homères a existé. Aucun n'émet de doute. Homère est donc un auteur, un poète qui a fait, alors non seulement l'Iliade et l'Odyssée, là il y avait tout un débat dans l'Antiquité. C'est vers le VIe siècle, simplement, qu'on s'est dit c'est plutôt d'abord l'Iliade et l'Odyssée. Et donc, pour les anciens, c'était une personne. Et on a des traditions, des vies. Alors, certaines anecdotes sont anciennes, elles datent, Héraclite en donne une sur sa mort, donc là, c'est fin VIe siècle.
Avant notre ère, je précise toujours. Oui.
Sinon, les vies, elles, donc, leur rédaction, ce sont des compilations, en fait, va jusqu'à l'époque romaine. Et donc, on a des strates différentes.
Et alors, qu'il y ait des nœuds, des variantes, vous, ça ne vous gêne pas?
Alors, c'était très difficile, parce que quand on m'a proposé de faire une vie d'Homère, j'ai dit, mais vous savez, c'est un fouillis de légendes, etc. Ça n'a pas de sens, et on n'a aucune réalité historique derrière. Et c'est là que j'ai eu l'idée, pendant une insomnie, c'est d'ailleurs ma femme qui m'a suggéré cette idée, mais elle m'a dit, mais c'est un mythe, mais un mythe au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire que le mythe vaut par les variantes, qui sont toujours, comme vous avez dit au début, autour d'un arbre qui est le même. Et là, on peut aller à gauche, à droite. Il y a différentes possibilités selon les écoles d'interprétation, selon les lieux aussi. Et un mythe, comme tout mythe, est vrai. C'est-à-dire que c'est vraiment à travers cette grille-là que l'on pensait l'existence de celui qui est le garant ou la référence derrière l'Iliade et l'Odyssée.
Mais qu'autour de la naissance d'Homère, il y ait une grappe d'interprétations diverses ne vous gêne pas?
Non, parce que beaucoup de villes ont revendiqué la naissance d'Homère, donc ça peut être Chios, Cumée, Smyrne, mais ça peut être aussi Babylone ou même Rome, donc là les interprétations divergent, parce que veut dire Homère? L'auteur Homère, c'est pas comme pour nous, Balzac ou Victor Hugo, un génie qui a créé quelque chose à partir de son cerveau. Pour un ancien, Homère c'était, je crois, un nom nécessaire qui devait être derrière ses poèmes, c'est-à-dire on disait aux gens, chante-nous de l'Homère. Et Homère, c'était la référence. Alors, qu'il existait ou pas, ça c'est un autre problème qu'on pourra jamais vraiment trancher. C'est peut-être un des chanteurs qui ont composé l'Iliade et ensuite, il y a eu l'Odyssée. Mais on prêtait à Homère des vies différentes selon l'interprétation que l'on avait de ses textes. Et selon, pas seulement de ses textes, mais du succès de ses textes. Par exemple, il y a des vies qui disent qu'il y a un rapport très fort entre Homère et Athènes. Il serait allé à Athènes. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'au VIe siècle, Athènes a pris une sorte de monopole sur la gestion des textes d'Homère en organisant d'immenses récitations pour Homère, enfin des textes d'Homère. Mais il y avait d'autres traditions, il y avait d'autres écoles aussi. Et donc, on a des vies qui, au contraire, montrent qu'Homère n'a jamais pu aller à Athènes. Il est mort avant d'y aller. On a des vies qui insistent sur l'école de ses enfants, enfin soi-disant enfants, les Homérides, les fils d'Homère, qui auraient mis en forme les poèmes, et d'autres, au contraire, d'autres vies qui ignorent complètement ça. Donc ce sont des variantes qui, autour, mais toujours d'un même noyau, c'est-à-dire que, justement, on ne sait pas où il est né, il est errant, il est faible, il est handicapé, puisque ou aveugle ou pas, mais bon, ça, on en débat, justement. Il perd un concours poétique contre Hésiode, si on admet qu'il a rencontré Hésiode, etc. Et il meurt.
Hésiode, alors, c'est une des singularités de votre livre, et sans cesse présent. Vous vous dites qu'il est un peu plus tardif qu'Homère, mais Hésiode, la théogonie, les travaux et les jours, lui, il se nomme, tandis qu'Homère ne se nomme pas.
C'est ça qui est frappant, c'est que jamais, dans aucun texte d'Homère, on a « je suis Homère de telle ville ». Il ne raconte jamais son histoire, il ne donne strictement jamais son nom. Ce qui est une force, c'est-à-dire que il laisse aux autres, enfin il, le groupe qui a fait l'Iliade, et celui qui a fait l'Odyssée ensuite, laisse aux autres le soin de le nommer. Donc on dit, ah ça c'est de l'Homère. Donc là, il est d'autant plus présent, si on peut dire, qu'il ne s'affiche pas. Hésiode, au contraire, il dit, je suis Hésiode, les muses m'ont initié, c'est à ce moment-là qu'il donne son nom. Et Hésiode, comme l'avait dit Jean-Pierre Vernant, c'est comme un prophète qui veut réformer la religion, la politique, etc. Homère, pas du tout.
On entendait Chantraine dire... Homère, ça veut dire otage, mais pour vous, Homère, ça veut dire aussi l'assembleur.
Oui, alors, c'est vrai que Homéros, c'est le nom grec ancien et grec moderne pour dire otage. Mais si on l'analyse, ça veut dire celui qui articule ensemble. Homme, c'est homogène, et Eros, c'est la même racine que articulation. Donc, ça veut dire celui qui met ensemble des mots, des phrases, des vers, et peut-être des traditions. Donc, ce qui est frappant, il vient après. Et Ziodos, c'est celui qui lance sa voix.
Attention, Pierre-Judet de Lacombe, on va continuer à entendre du grec. Vous parliez de la cécité d'Homère. Alors, une des traditions, une des multiples variantes, très minoritaires, mais si belles, veut que, non encore poète, il ait été aveuglé par l'éclat du bouclier que la belle Thétis avait demandé à Héphaïstos, le dieu boiteux, de fabriquer pour protéger Achille, son fils. Alors Thétis, c'est Daniel Mesguich, et on va entendre du grec par la voix d'Emmanuel Lascou. C'est une réalisation récente des éditions des Femmes, sous la signature de Francesca Isidori.
Voilà pourquoi je me jette aujourd'hui à tes genoux. Je te supplie de donner à mon fils, dont l'existence file, un bouclier, un casque, de bons protège-tibias bien garnis, de protège-chevilles et une cuirasse, car il les lui a perdus au combat, son fidèle compagnon, maté qu'il fut par les Troyens. Mon fils, lui, gît par terre à se ronger le cœur. Et la réponse du fameux boiteux.
Tarse, metoitauta metapresissa ici melonta.
Rassure-toi, cesse de te martyriser l'âme à ce sujet. Il commence par fabriquer un bouclier solide, gigantesque. Il y place deux villes d'hommes éphémères, splendides. Dans l'une, ce ne sont que mariages, réjouissances. On y voit les épousés quitter la chambre nuptiale en procession aux flambeaux par la ville, tout emplie du chant des noces. De jeunes danseurs virevoltent au son joyeux des bombardes et des cithares. Et les femmes admirent le spectacle, chacune sur le pas de sa porte. Il y place aussi un domaine royal. Là, les moissonneurs fauchent, tenant en main leurs faux bien aiguisés. Tandis qu'à l'abri, sous le chêne, les serviteurs s'affairent au repas, qu'ils sacrifient un bœuf énorme avant de l'apprêter, et que les femmes, pour le banquet des moissonneurs, versent force blanche farine.
On va s'arrêter sur les histoires multiples qui sont racontées dans le bouclier dans un instant, mais le verre. Homère l'assembleur, il assemble dans chaque verre des formes qui vont contre le grec, qui vont pas nécessairement l'une avec l'autre. Chaque vers est une aventure multiple.
Oui, alors déjà la langue, c'est-à-dire que avec le dactyle, donc l'examen dactylique, c'est une longue suivie de deux brèves, ça c'est la cellule de base, ça donc ça ne correspond pas, comme le dit Aristote même, au rythme du grec, donc il a fallu transformer les mots grecs, rajouter des syllabes en allongé. Donc c'est une langue d'artifice, c'est une langue d'art. Et alors en plus, l'examen dactylique, donc c'est très long, donc plus long que l'alexandrin, et qui surtout, contrairement à l'alexandrin, n'est pas coupé au milieu. C'est toujours, il y a des coupes, mais qui introduisent un déséquilibre. Donc on a quelque chose qui part un peu comme si ça boitait, et finalement ça se rétablit. Et à la fin, il y a une pause, donc à la fin de chaque vers, même si la phrase continue. Donc c'est vraiment comme une cellule de rythme, et une cellule, on peut dire, de temps maîtrisé, mais qui passe par une forme de déséquilibre. C'est pour ça que c'est très dynamique.
Mais le style, c'est la boîterie, dira plus tard Buffon.
Alors,
et alors à propos de boîterie, bouclier qui est demandé par Thétis, qui va raconter des scènes multiples, l'est à Héphaïstos, qui est boiteux comme Homère et aveugle.
Alors, je pense que oui, que si on a dans l'idée que toutes ces vies d'Homère, donc c'est un mythe du poète, un mythe de l'artisan. Donc, si c'est un mythe, je me suis dit, ça doit être dans Homère même. Et effectivement, celui qui représente Homère dans la poésie homérique, c'est Héphaïstos, c'est-à-dire Vulcain, qui est un dieu boiteux, parce qu'il est tombé du ciel plusieurs fois.
Il boite des deux côtés.
Alors, il boite des deux côtés, il est tordu des deux côtés, comme on dit. Il est disgracieux, il a construit des robots qui le portent pour aller faire son travail. Et c'est un dieu boiteux, donc horrible, qui fait rire. Cocufié dans l'Odyssée par Arès, enfin Mars, mais qui produit des merveilles.
Il ne ressemble pas à la beauté qu'il crée.
Voilà, il n'est pas aussi beau que ses poèmes, et ça c'est ce qu'on voit dans les histoires d'Homère, qui est presque toujours un perdant, malgré ses...
Et alors le bouclier représente des histoires multiples ?
Alors le bouclier c'est une sorte d'organisation du monde, et du monde vécu, avec des cités, avec un mariage, et puis un procès, cité en guerre, cité en paix, des travaux, aussi le lieu de l'élevage, et à la fin une scène de danse magnifique, qui est comme une espèce de symbole de l'Iliade, avec donc des garçons et des filles qui dansent. C'est un monde qui n'est précisément pas le monde héroïque d'Achille, d'Hector, où on se tue, où il y a des noms propres extrêmement importants, il s'agit de gagner la gloire individuelle. C'est le monde vécu. Et ce qui est magnifique, c'est que or c'est l'arme que Achille doit porter, et qui sera efficace, qui va le protéger effectivement, pour venger la mort de son ami Patrocle, et c'est grâce à cette arme qu'il pourra tuer Hector.
Oui, mais enfin, finalement, Achille... connaîtra le destin de mourir tôt, comme tous les héros. Le bouclier survivra à la mort du héros, continuera à émerveiller. Il ne vaut pas en soi, malgré ses qualités stupéfiantes, je vous cite, Pierre Judet de Lacombe, il doit être transmis.
Oui, alors c'est un objet et qu'aura une histoire un peu terrible, puisque donc il faudra décider après la mort d'Achille qui va hériter de ses armes. Et là, donc le pauvre Ajax, qui n'a pas gagné, va se suicider. Mais je pense que ce bouclier, c'est comme un poème. C'est-à-dire que le poème, c'est un objet. C'est pas qu'une tradition, un flux ouvert, etc. C'est un objet bien clos, comme l'est le bouclier dans le qui est serti par l'océan, qui est la forme parfaite. C'est ça qu'on offre aux dieux lors des rituels, quand on offre un poème aux dieux. Donc c'est vraiment un objet. C'est-à-dire que pour moi, l'Iliade, l'Odyssée ont cette construction qui n'est pas celle du bouclier, puisque dans le bouclier, Homère parle du monde, plutôt du monde présent de ses auditeurs, pas du monde passé des héros. Mais c'est un hommage qu'il rend aussi à la vie présente de ses auditeurs pour dire, voilà, je suis capable de parler de vous aussi.
Pause, si vous le voulez bien, Pierre Jeudet de la Combe. Donc, votre épouse vous apporte les nuits d'insomnie des solutions. Votre fille vous offre, en 2016, un billet pour l'Olympia. Et vous en êtes où de la traduction de l'Iliade ?
Aux deux tiers, pour l'instant.
Mais alors, cette pause à l'Olympia va vous permettre de faire un bond dans votre travail. C'était un concert de...
Buddy Guy, le bluesman.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Pierre Jeudet de la Combe. Mais alors, quel rapport entre Homère, la Aide, et Buddy Guy, le vieux performeur de l'Olympia, 27 siècles plus tard peut-être?
Oui, même si Buddy Guy n'est pas aveugle comme Ray Charles, on entend là, mais dans ces accords de guitare qui, je crois, ouvraient le concert, on voit que lui, qui est, c'est la légende, une des légendes du blues, donc il fait du blues, mais il le fait strictement à sa manière. Dès les premiers accords, on voit, il y a que lui qui peut faire ça. Donc, ce qui m'a frappé, c'est que on peut être dans une tradition, faire un genre, comme Homère faisait de l'épopée, et être nouveau à chaque fois. C'est-à-dire que la tradition n'existe pas comme des règles qu'il s'agit d'appliquer, de reproduire, mais c'est à chaque fois une recréation. C'est un événement nouveau. Et c'est ça qui fait le plaisir et la force de ces performances, comme on dit, de ces concerts. Parce qu'Homère, c'était un concert aussi. Même si tout était ancien dans Homère, comme dans ici, tout est ancien dans le blues. Mais c'est entièrement neuf. Par l'intensité, par l'humour aussi. Parce que Buddy Guy, il est très rigolard. Il y a aussi beaucoup d'humour dans Homère.
Il y a beaucoup d'humour dans Homère. Parce que, en confidence quand même, vous me disiez en arrivant, moi je suis harassé, parce que tous les massacres de l'Iliade, j'ai le nez qui sort du sang, quoi, à peine.
C'est très sanglant, c'est très précis, c'est aussi, c'est pas du tout militariste, on peut dire. C'est une manière aussi de rendre... restituer aux gens leur expérience. Comme c'était des gens qui étaient tout le temps en guerre, ben il faut apprendre, c'est vrai, on peut le dire comme ça, à tuer, mais aussi à se faire tuer. Et donc la poésie donnait cette possibilité-là, et en jouant, même il y a pas d'humour dans les scènes de massacre, pas tellement, même s'il peut y en avoir, mais là c'est de l'ironie grinçante, mais Homère, c'est celui qui donne les choses qu'on vit, même les plus terribles, les plus horribles, les chagrins, les souffrances, les plaisirs aussi, mais qui... comme il transforme ça par le vers et par son langage, il montre qu'il le fait. Et du coup, les gens ont accès à leur expérience, mais aussi ont accès, si on peut dire, à une forme de leur expérience. Donc, et qu'ils peuvent entièrement dominer, qui est la leur. Donc, ils se réapproprient leur propre vie à partir de ces aventures très lointaines d'un monde qui est fini. Le monde des héros, c'est aucun Grec qui écoute Homère ne sait qu'il ne pourra vivre les aventures d'Achille ou de Diomède.
Parmi les multiples qualités d'Homère, il y a à vous entendre celle d'être un sociologue, parce qu'il nous raconte où chante Laède. Pour qui chante Laède? Alors, c'est quoi d'ailleurs la vie d'Homère dans ces dernières années, quand il quitte Chios, la poudreuse, où il s'est établi à un moment, toujours d'après les traditions? Il va où? D'île en île? Alors, pour quel public?
Il va d'île en île, alors donc là, souvent les publics sont inattendus, c'est-à-dire il ne sait pas où il arrive, il est surpris, mais à chaque fois il a un succès énorme. Il peut aussi chanter dans la cour d'un roi, le roi d'Athènes, ou bien il va à Argos, il va chanter donc dans le Péloponnèse, là il va chanter quelques vers sur le héros de cette ville, Diomède, et on décide de lui faire un culte alors qu'il n'est pas mort. C'est-à-dire qu'il chante, ce qui est frappant, pour des publics très différents. Ça peut être dans une bourgade, comme ça peut être au contraire dans une grande ville, et il chante plutôt, il compose en chantant ses grands poèmes héroïques dans les grandes villes. Donc c'est-à-dire qu'il, dans ses vies, montre qu'en fait il concerne tous les publics, et il peut même, là dans ses vies, qui inventent des petits, ou reprennent des petits poèmes qui sont visiblement pas de lui, donc qui sont des poèmes souvent assez comiques, il peut chanter pour des potiers, mais dans un ton très très noble.
Il fait des concours aussi?
Alors il fait un concours d'après une version, qui est impossible en fait, il aurait, donc pour les funérailles d'un grand guerrier, il aurait concouru contre Hésiode.
Hésiode le revoilà.
Et Hésiode gagne, et ça qui est...
Oui, mais attendez, le public préfère Homère, mais c'est voilà. Les autorités qui choisissent.
Alors, c'est le roi, parce qu'on est dans les funérailles d'un guerrier, et le frère de ce guerrier mort, donc, doit décider, et finalement, il choisit Hésiode. Pourquoi? Parce qu'il dit, Hésiode, c'est la paix, ce sont les travaux des champs, tandis qu'Homère nous apprend simplement à faire massacre sur massacre. Et donc, alors que les gens étaient enthousiasmés par la poésie d'Homère, le roi décide que, finalement, il y a plus d'avenir et plus de leçons à tirer d'Hésiode. Ce qui est vrai, il n'y a pas de leçons à tirer d'Homère.
Chez le père de Nausicaa, en Phéacie, Homère, Laède homérique, tel que le rêve, l'école homérique, chante devant la cour. Et il s'appelle?
Donc il s'appelle Démodocos, celui que Démos, le peuple, et Docos, c'est recevoir, celui qui est reçu par le peuple.
Et alors la Phéacie, dites-vous, c'est la Californie. Alors là.
Oui, c'est une île qui n'existe plus, puisqu'elle a été recouverte par Poséidon. Donc elle ne fait plus partie de notre monde. Mais c'est un lieu idéal, c'est un lieu de la poésie, puisque là, il y a Démodocos qui chante, devant Ulysse, chante les exploits d'Ulysse, qui le fait pleurer. Et ce sont des gens qui sont donc dans la technique, dans la boxe, dans la technique athlétique, technique poétique, des constructions incroyables, où toutes les avec le jour et la nuit qui se retrouvent ensemble. Et ils ont des bateaux qui sont comme les computers, c'est-à-dire qui sont guidés par la pensée. Et donc, c'est le monde d'une technologie heureuse, réussie, il domine tout par ses techniques, dont la poésie.
Alors, vous parlez de Woodstock, je suis désolé, mais c'est quand même pas en Californie. Enfin, c'était en 69, dans un autre état, vous allez me dire que le style du festival, un festival qui ensuite disparaît, comme l'île de Phéacie est d'origine californienne. Alors, vous vous souvenez, hein.
It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. What it means is that the people who...
Et annoncé à grand son de fanfare, celui que le peuple aime, Jimi Hendrix, va se livrer à un fameux solo de guitare où il imitera les bruits de la guerre, les bombardements par les B-52. Nous sommes à l'époque de la guerre du Vietnam. Je vais vous dire, c'est Démodocos qui raconte la chute de Troie devant la cour pacifique de Phéacie.
Alors c'est vrai que...
Vous forcez un peu le trait quand même.
Alors c'est vrai que la chute de Troie, c'est un crime contre l'humanité absolument épouvantable. Les Grecs se sont donné ça comme mythe, donc ça c'est déjà intéressant. Alors là, Jimi Hendrix fait une critique de la guerre. Alors si la guerre est présentée de manière très très négative dans Homère, c'est pas, il n'en fait pas pour autant la critique, puisque c'est un, ils devaient se battre tout le temps, ces gens-là. Mais par rapport à Woodstock, je pense qu'il y a vraiment un rapport, c'est-à-dire que c'est une utopie, Woodstock. Des gens sont réunis pour entendre des musiques extraordinaires, donc dont on a la nostalgie. Et en fait, ce qui se passe dans la Phéasie, c'est exactement ça. C'est un monde à côté du monde, dans lequel on est dans la beauté de l'art, même si l'art doit dire les choses horribles. C'est ça, cette force de la poésie. C'est-à-dire que là, la poésie ne condamne pas, mais simplement elle restitue cette force de manière qu'on puisse s'en emparer. Et pas pour être guerrier soi-même, mais pour comprendre ce que c'est que l'existence. Et un grand helléniste qui s'appelle Douglas Frame a pensé que la première occasion de récitation de l'Iliade et de l'Odyssée, c'était un festival en Asie mineure. Et en fait, il a pensé que l'île des Phéaciens est comme si ce festival, ce Woodstock, où tous les Grecs de toutes les régions venaient se rassembler, devenait une société. C'est une utopie en ce sens-là. C'est là donc que Démodocos peut chanter.
Un homme aveugle, il vient de Chios la poudreuse, il arrive à Délos pendant les Déliades. Ses chants, tous, sont pour la suite des temps les meilleurs. Il y a un hymne homérique à Apollon qui date du 6e siècle avant notre ère, qui raconte ces Déliades et oui. La présence d'Homère.
Oui, alors c'est le premier texte que l'on ait, donc du 6e siècle, on peut hésiter sur la date, dans le 6e siècle, où on a la présentation de ce que c'était ces grandes récitations dans des festivals. Là, c'est le festival d'Apollon à Délos, et où on chantait de l'Homère. Et donc c'est Déliade, donc les filles de Délos, qui sont comme les muses locales qui doivent à la fois, qui vont pas inspirer Homère, mais qui vont au contraire en dire la gloire. C'est Déliade, le texte présente de manière tout à fait stupéfiante pour nous. Il est non seulement dit qu'elle chante les exploits des hommes et des femmes du passé, comme fait tout poète épique, mais elle chante avec des sons tels qui font que quiconque qui vient de Grèce ou d'ailleurs de toutes les régions de Grèce pense que ce sont eux qui chantent. C'est-à-dire qu'elles imitent non pas les voix d'Hector, d'Andromaque ou d'Achille, mais les voix des gens présents, dans leur diversité. Et donc, ils se projettent dans ces voix magnifiques. Les gens pensent que donc ils sont eux-mêmes là à chanter dans ces exploits, alors que normalement, c'est un aède qui chante ça. Et ça, c'est la force de l'épopée qui, par ses sons, peut rassembler tout le monde, et surtout faire que les gens peuvent se projeter dans ce monde qui leur est étranger et penser qu'il est le leur. Ça, c'est la grande prouesse de la poésie.
Merci à vous, Pierre-Judet de Lacombe. Chez Bayard, une petite conférence, Achille ou Ulysse, destinée aux élèves de Montreuil de 8 à 13 ans, pour les plus grands. Homère, en collection Folio, c'est chez Gallimard. Je dis qu'il n'y a pas de liesse plus accomplie que lorsque la liesse tient tout un peuple, que les convives sont dans une salle à écouter un chanteur ou un acteur, assis en ligne, et que les tables près d'eux sont pleines de pain, de viande et de vin, cela dans ma poitrine me semble être la chose la plus belle. On peut dédier, allez, cette émission à un acteur qui n'est pas disparu, Claude Rich.
Cette nuit, dans un de mes délires séniles, j'étais Homère et je dictais les derniers vers de l'Odyssée. J'étais heureux. Lorsque j'écrivais, je célébrais chaque jour mes propres funérailles. Mais maintenant, c'est fini, je suis heureux et j'ai envie de vous prendre dans mes bras.
La marche de l'histoire était réalisée par Valérie Aestaray, à la technique Vincent Godard, la préparation Frédéric Martin.